tu l'aimes local? Ben, c'est comme ta radio. Des animateurs qui se retrouvent sur les mêmes terrains de soccer que toi pis tes kids, qui vont au même dépanneur, qui vont voir les mêmes shows pis qui restent pognés dans le même trafic que toi. Boulevard 102.1 Québec, c'est chez nous.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bonsoir, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer un excellent 60 minutes puisque j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup entendre à la radio avec moi pour les prochaines 60 minutes, Claude Thibodeau. Salut.
Êtes-vous le monsieur Marceau de la radio, vous?
Oui, c'est moi.
Il me semble que j'avais déjà vu votre face à la radio.
Ah, ouais, peut-être. Je suis tellement content que tu sois là avec nous autres ce
plaisir,
soir. Puis je pense que je te l'ai jamais dit, mais je me considère tout le temps privilégié de t'avoir pour parler pendant 60 minutes de tous les sujets qu'on peut aborder.
T'en parleras à ma blonde, elle va te dire qu'après un certain temps, ça vient moins excitant.
Elle est contente que tu viennes à la radio, ça lui donne un break à la maison. Ça lui donne un break à la maison, mais j'ai pensé à toi. Écoute, t'étais dans mes oreilles pendant presque plus qu'une heure dans les derniers jours. On était en tournoi de hockey avec mes gars à Bromont. Puis mes gars dormaient dans le char. Je me suis dit, tiens, je vais écouter des podcasts. Puis je t'ai entendu avec Gilles Parent
faire
plusieurs minutes.
On a fait une heure et demie ensemble.
Ouais. C'était intéressant du début jusqu'à la fin. Tu parlais de radio. Est-ce que tu t'ennuies de la radio? Ça t'arrive-tu des fois de dire, il me semble qu'à matin, j'aimerais ça en faire?
Bon, il y a des... on ne peut pas... si tu demandais à un médecin, est-ce que tu t'ennuies de faire des opérations à l'hôpital? Il va dire, oui, j'aimais le thrill de faire des opérations, mais attendre en buvant mon 8e café que le personnel arrive, ça, c'est moins drôle. Fait qu'il y a des bouts de la radio dont je ne m'ennuie pas, mais l'acte de communiquer, appelons ça comme ça, ça, je ne me suis jamais lassé de ça.
Est-ce que tu es capable de faire la part des choses entre la radio de ton temps versus la radio d'aujourd'hui? Une radio qui était extrêmement demandante pour les employés. La perfection était de mise, là. C'est les employés qui bégayaient, ils n'étaient pas à la radio à ce moment-là.
Ça a été... il fut un temps où si tu sonnais pas comme Richard Garneau ou Edgar Flutier, Radio-Canada, la diction ici, Radio-Canada, cette approche-là et patati patata.
Ouais.
Si tu ne tombais pas dans ce moule-là, tu ne pouvais pas faire de carrière. Sauf que ça s'est considérablement relaxé, dirons-nous, quand les stations FM se sont mises à pleuvoir dans les années 80. Puis tu connais la vieille maxime qu'on attribue à Enzo Ferrari, qui, M. Ferrari, disait « la rareté crée la valeur ». Fait que moi, je ne suis pas pressé de vendre des Ferrari parce que moins j'en vends, plus elles valent cher. OK. Alors, la rareté créant la valeur, si on accepte le principe d'Enzo Ferrari, ça veut dire que plus tu rajoutes des stations de radio ou des moyens de rejoindre les gens, plus tu dilues la valeur relative de chacun d'entre eux. Comment est-ce que ça se... ou chacun d'entre eux, comment ça se manifesterait? Ça se manifesterait probablement par le fait qu'il y a des standards de qualité. C'est très aléatoire, la qualité. Ce qui est excitant pour toi est dole pour moi et vice-versa. Mais je constate un relâchement. J'attribue ça beaucoup au fait que plusieurs des personnes, on avait une discussion là-dessus, toi et moi, la dernière fois que je t'ai visité. Toi-même, tu faisais remarquer que beaucoup des gens qui dirigent les entreprises aujourd'hui ne sont pas des gens qui viennent du produit.
C'est pas nécessairement des passionnés non plus.
Il y a ça. Ils sont peut-être plus occupés de voir comment le titre va en bourse ce matin. Et si c'est le cas, ça module toute leur façon et leur philosophie d'opération. Et il ne faut pas se surprendre par la suite quand on voit ou on entend à l'écran ou en ondes à la radio des affaires parfois un peu « weird ». Mon Dieu, comment ça se fait? Il n'y a personne qui... je vois des titres dans le journal des fois qui sont pleins de fautes. Mais je me dis, le copywriter a fait l'erreur. Le gars qui fait le correcteur l'a laissé passer. Le correcteur du logiciel WordPerf, Microsoft Word l'a laissé passer. Puis le gars qui fait la mise en page l'a laissé... Ça va prendre. Une belle avion, là, OK.
Ça m'arrive encore des fois, mais c'est un bel avion.
Alors, puis quand tu soulignes ça, tu passes pour un vieux Chris. Alors, je m'assume.
Ouais. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est bon de le faire. Tu as été animateur de radio, tu as été patron, tu as été propriétaire aussi.
Copropriétaire, oui.
Comment tu étais comme propriétaire? Comment tu étais comme patron, Claude Thibodeau?
Moi, j'ai découvert quand j'ai accédé à la copropriété d'une station de radio avec mes associés à Québec, le 93, dans les années 80, j'ai découvert que j'aurais aimé penser que j'étais un entrepreneur. J'ai probablement un peu de fibre entrepreneuriale en moi à cause de mes parents, ma mère en particulier, qui était une entrepreneur, une féministe avant là. Ma mère a été la première femme présidente d'une chambre de commerce dans l'histoire du Québec. Ça se faisait pas à l'époque, tu vois. Alors, maman était très, très, très autour de là, tu sais, à l'opéra. Et j'ai découvert que oui, j'ai un peu de cette drive-là où je l'avais, tu sais, ça s'est émoussé avec les années, sans doute. Mais je regardais certains de mes associés qui étaient de véritables entrepreneurs. Moi, j'ai découvert assez rapidement à l'usure que je suis un opérateur, d'abord et avant tout. C'est ce que je fais. Par contre, la fibre entrepreneurial que mes parents m'ont transmis, ma mère en particulier, probablement que ça a fait de moi à certains moments, on avait discuté de ça toi et moi la dernière fois, un intrapreneur, c'est-à-dire un gars qui a une espèce de swing entrepreneur, mais il est capable d'aller puncher pour un T4 puis travailler pour quelqu'un d'autre si la mission, l'objectif, le produit qu'on lui demande de faire l'intéresse. T'sais. Alors, je suis une espèce de mélange de ça. J'étais un gestionnaire assez rigoureux, très exigeant. Je croyais à l'innovation et à la promotion croisée. Alors, pour moi, crier à la radio tout seul, « Hey, on est les meilleurs au monde! » Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le démontrer? On va faire un concours avec le TVA 18h. On va mettre des numéros dans les pages 8 du Journal du Québec. Pierre Jobin va les lire en nombre. Ouais. Si tu appelles à FM 93 dans 10 minutes, tu gagnes 10 000 piastres de Desjardins dans ton compte de REER. Tu sais, tu comprends? Ce genre de folie-là. Alors, moi, mon cerveau débitait constamment des insanités dans ce genre-là. Alors, il y en a que je laissais passer parce que ça n'avait aucun bon sens. Mais il y en a d'autres que je me disais, pensez-vous qu'on peut faire ça? Et je me souviens, il y a plusieurs années, il y en a que j'avais été invité quand ma station radio était au sommet de la gloire, 573 000. J'avais été invité.
Tu étais dans Samuel Hollande à ce moment-là?
Non, ça c'était chic. Nous, on était sur la côte, dans la côte Belvédère, au coin de Belvédère et de la côte.
Ah oui, c'est vrai, le petit spot là, avec la belle vue. Là.
Oui,
ah,
c'est ça, l'ancien restaurant Penmas, l'ancien bar Amazon, danseuse, on carte à l'entrée. J'ai eu un meurtre là-dedans.
Ah oui?
Oui, j'ai eu un règlement de compte. Il n'y a pas juste ces temps-ci qu'on en fait des règlements de compte, il y en avait à l'époque. Alors, où est-ce que je m'en allais avec mes skis? On parlait de... je disais que j'étais exigeant à l'époque. Et on avait beaucoup d'opportunités de faire des choses. Et parfois, on en laissait passer. Comme je te dis, on se disait, non, ça, si on fait ça, les gens vont trouver que c'est trop, qu'on pousse le bouchon trop loin, etc. Mais mieux vaut être en effervescence tout le temps puis dire, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Les lois de la morale, le gros bon sens, comme dirait M. Poilier, et bien d'autres facteurs, ton gérant de banque, vont t'arrêter en disant, tu fais pas ça. Mais, je reprends le fil, je suis invité à l'époque du 573 000 auditeurs à aller donner une conférence devant les distingués membres de la Chambre de commerce de Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, un fils du village, tu sais, qui a eu un peu de succès à Québec, puis qui revient. Et quelqu'un m'avait demandé, après la conférence, dans la période de questions, c'est quoi la différence, Claude, entre faire de la radio dans un gros marché puis un petit marché? C'est quoi la vraie différence que tu as constatée? Et ma réponse était prête. Je lui ai répondu, quand j'étais en radio à Sainte-Marie-de-Beauce, si j'avais une bonne idée, un peu tordue, mais bonne, avec beaucoup de potentiel, on cherchait des clients pour embarquer avec nous autres, on n'y arrivait pas. Je la faisais pareil avec la station, même si je n'avais pas de clients associés. Ça faisait un succès. Et quand j'allais faire la file pour manger un McDo, les gens me tapaient dans le dos en disant « Hey, j'ai entendu ton affaire en l'autre, t'es drôle, en maudit. » Ça s'arrêtait là. À Québec, dans un gros marché, si t'as une idée de fou comme ça, tu la packages avec ton équipe de vente, tu sais comment ça marche, tu trouves un autre plus fou que toi dans le village qui dit « Ouais, m'a embarqué là-dedans, moi. » Puis il embarque, puis tu le fais, puis tu lui vends chèrement sa participation, c'est un succès, tes codes d'écoute montent et l'argent tombe dans ton compte. Alors, j'ai expliqué aux gens qui étaient dans la salle que la vraie grosse différence, c'est ça. Le reste, les gens ne sont pas plus intelligents à Québec qu'à Lac-Mégantic. Ouais. Et il y a juste plus d'opportunités.
Vous aviez près de 550 000 auditeurs.
576 000, pour être précis.
576 000, non, c'est correct. 576 000, il n'y a plus une station de radio qui fait ça à Québec.
Non, il faut que tu en prennes trois, je pense, pour arriver à ça aujourd'hui. Ouais. Tu prends la 1, la 2, la 3. C'était, on, écoute, on avait, à l'été 1987, on avait 576 000 auditeurs en part de marché chez les adultes 18-49, nous avions 53 %. Ça veut dire que plus de la moitié des heures de radio consacrées par des adultes de la région de Québec à l'été 87, écoutaient la radio.
C'était vous autres qui les avez.
Pire encore, on s'est fait un dîner, la gang de chums de l'époque, il y a 2 ans de ça.
Oui, j'ai vu des photos passer.
Pour célébrer, le, je pense que c'était le 40e ou 30e, je me souviens plus. En tout cas, le Xème anniversaire de cet événement-là. Puis Daniel Beaumont, qui était un de mes collègues à l'époque, qui était mon directeur des programmes, Dan disait, c'est l'occasion de le faire parce qu'on va peut-être bien être mort au prochain, prochain chiffron, là, dans 10 ans, on ne sera peut-être plus là. Fait qu'on réunit un bon nombre de gens qui étaient là en 1987. Et moi, Dan dit, tu vas faire une présentation, tu vas passer à travers les résultats du BBM pour nous réexpliquer combien c'était gros. T'sais. Je dis oui. Puis tu devines que j'ai une copie chez moi du cahier papier, du bottin papier des résultats de Québec de l'été 1987 avec toutes les stations qui sont dedans. Puis les chiffres quart d'heure par quart d'heure. Puis ça. Alors, j'ai relu le document, mais avec des yeux un peu moins naïfs et un peu moins niaiseux qu'à l'époque, un peu moins... enfantin qui disait hey, « on a gagné, on est les meilleurs ». Je me suis dit, il faudrait peut-être que je découvre là-dedans les affaires que je n'avais pas vues avant. J'ai fait mes devoirs et j'ai procédé de la façon la plus rigoureuse possible. Je me suis dit, ce sondage-là de BBM, comment a-t-il été fait? BBM, comme tu sais, ou on appelle ça numérique aujourd'hui, c'était une coopérative de stations de radio. Et il y avait 2 grands sondages par année dans la plupart des marchés, le printemps et l'automne, les saisons effervescentes. Les marchés un peu plus gros, on avait même 3. Tu sais, il y en avait un l'hiver. Mais ça, beaucoup de gens disaient, ouais, l'hiver, c'est désavantageux, les séries de télévision sont à leur sommet, les gens sont partis dans le sud. Puis certains marchés au Canada en avaient 4. Un d'été. Wow! Et là, l'été, j'ai pas besoin de te dire qu'une station musicale populaire, le Python est à 10, puis tout le monde l'écoute. Tu comprends? Les jeunes sont en vacances, tout le monde est au chalet, on s'amuse. Bon. Alors, on savait que ça nous serait favorable. Alors, nous, on était prêts comme station radio, et toutes les stations FM de Québec étaient prêtes à payer notre contribution à BBM pour que la coopérative effectue un sondage à Québec. Mais de faire le sondage nécessitait qu'on envoie des cahiers. Et la méthodologie de Numéris ou BBM à l'époque, c'était, il appelait chez vous et disait, bon, M. Marceau, marié, vos enfants, etc., accepteriez-vous d'être une famille type qu'on va sonder? Si tu dis oui, BBM pratique ce qu'on appelle le household flooding. Je pense que le mot français, c'est la saturation familiale. C'est-à-dire que si vous êtes 4 ou 5 dans la maison, tout le monde va avoir un ballot. Toi, ta femme, ta mère qui vient avec vous autres au sol, tes 2 enfants, etc.
J'avais eu ça dans le temps, il m'avait envoyé un 2 piastres.
Exactement. Ouais. Alors, il y avait des frais associés à ça. Puis les stations AM comme CHRC et d'autres, dirigées par Henri Arthur à l'époque, disaient, hey, Simon, la dernière affaire qu'on veut faire, c'est payer pour un sondage d'été. On va avoir l'air fou là-dedans. Fait qu'il y avait un petit nombre de stations à Québec qui acceptaient de le défrayer, mais toutes les stations membres de BBM dans la ville, qu'elles aient payé ou non pour la tenue du sondage d'été, verraient leurs chiffres apparaître puisqu'elles sont membres, même si elles n'ont pas payé. Alors, le sondage se fait, mais BBM étant confronté à moins de membres payants qui acceptent de payer le transport, passe-moi l'expression, ils ont fait un petit sondage. Au lieu de faire un sondage comme ils le faisaient tout le temps dans la grande région étendue là, de Rivière-du-Loup, la Pocatière, la jusqu'à Trois-Rivières, Lac-Mégantic, Saint-Georges, tu sais, le grand, grand, grand bassin de rayonnement des stations de Québec, ils ont fait un sondage métropolitain. Ça allait de Lac-Beauport à Beaumont. Puis ça s'en allait même, ça arrêtait à Saint-Augustin, puis à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, tu sais, à Bréquéville, tu sais. Hein? Fait que je vois ça, j'appelle GBBM pour me faire confirmer que c'est vrai. Et là, je constate, en discutant avec les gens de BBM, qu'il y a beaucoup moins de cahiers qui ont été envoyés. Alors, il y avait envoyé genre 1000 cahiers et il en était revenu valide pour les fins du sondage, l'été 87, à peu près 800. Alors,
ce qui est quand même très bon.
Là. Oui, mais c'est pas optimal. Un sondage de Québec pour être véritablement optimal, c'est 1400-1500 cahiers que ça te prend. Fait que dans une saison normale, BBM en envoyait à l'époque, mettons, 2200. Il en revenait 1800. Il y en avait qui étaient tout gribouillés, tout beurrés de confiture aux fesses. On disait, bon, ça, on peut pas. Ils tassaient ça, puis ils cumulaient, puis ils pondéraient, puis etc. Alors, notre 576 000 a été extrapolé, comme tous les sondages BBM le sont, à partir de données valides, mais fournies strictement par des gens de la région métropolitaine de Québec. 800. Alors, j'ai sorti ma calculatrice, Yannick, puis j'ai fait une règle de 3. Tu vas me dire, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je l'ai fait pareil. Je me suis dit, si 864 cahiers donnent 576 000, combien 1200 ou 1400, j'ai pris le chiffre moyen des sondages, ça donnait 780 000. T'sais. C'était presque parité avec C'est quoi à Montréal.
Complètement fou.
Alors, tu sais, tu vas me dire, tu fabules, Thibaudeau, t'en as fumé
non,
du
pas monde. Tant.
Tu sais, je ne fume pas. Alors, tu sais, tout ça pour dire que c'était une période, c'était un âge d'or, en quelque sorte, pour la radio FM, qui était la plus belle invention depuis le pain tranché, à ce moment-là.
Les gros coups que tu as fait en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire ou en tant qu'animateur, que tu te souviens, là, puis que tu es persuadé que les auditeurs qui écoutent, ils vont se souvenir.
Mes plus gros coups comme animateur ne sont pas survenus au FM 93. La chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée, j'appellerais peut-être pas ça un gros coup, je vais appeler ça une chose extraordinaire. Et les gens qui nous écoutent vont très bien comprendre pourquoi. En 1980, je suis à CJRP AM, station qui est sur le boulevard Laurier, qui n'existe plus aujourd'hui. CJRP 1060. Je suis Morning Man.
C'est pas la Grande Allée qui était à cette hauteur-là?
C'est la jonction entre le chemin Saint-Louis et ce qu'on appelle la Grande Allée, le boulevard Laurier-Grande Allée. Ouais. C'était dans Sillery. Il y a une agence de voyage, là-dedans, je pense, maintenant, je ne suis pas sûr.
C'est cette belle grosse bâtisse-là où était CJRP. Okay.
Alors, je suis Morning Man, et comme Serge Bélair à Montréal commence son émission à 5 heures du matin, parce que le marché de Montréal est très gros, et CGMS, l'émission Réseau de nuit arrête à 5 heures. Fait que mes boss, ils disent, ben garde, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose qui bouge le matin à Québec à 5 heures, mais il va falloir que tu fasses ton show à 5 heures. Alors, je commence mon show à 5 heures. Je n'ai pas de recherchiste. J'habite à Sainte-Marie-de-Beauce, un endroit que tu connais bien. Alors, je voyage tous les jours, tu sais. J'écoute Larry King la nuit à la radio, parce que Larry King, qui a longtemps été sur CNN, faisait de la radio de nuit à l'époque. Il avait des invités, écoute, les présidents des États-Unis allaient sur le show Larry King. C'était extraordinaire. J'avais la chance d'écouter ça en m'en venant dans ma voiture. Et quand on arrivait le matin à CJRP, à 5h moins quart, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de... Et moi, je faisais ma propre recherche, puis je n'avais pas de recherchiste. Puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Ça fait que j'avais booké des clients ou des gens, des invités la veille, puis j'espérais qu'ils s'en souviendraient, puis qu'ils m'appelleraient à leur dite ou que je pourrais les appeler sans les déranger. Tu sais, c'était très laborieux. Alors, mon metteur en onde, Raymond Laforêt, et moi, on entre le matin à 5h moins quart, on se verse un café, puis on regarde la première page du journal. Et la première page du journal dit « Un dramatique incendie à Saint-Siméon, dans Charlevoix. » OK. L'église de la ville a brûlé au solage hier. Oh, tabarnouche, tu sais. C'est rare que ça arrive, ça. Tu sais, rasé, là, complètement à terre. Catastrophe. Il n'y a pas de télévision du matin dans ce temps-là. Il n'y a pas de salut bonjour. Il n'y a rien. Il y a juste la première page du journal. Et moi, mon émission commence à 5 heures. Mais je sais que mon compétiteur, André Arthur, lui, il est supposé commencer à 6h30, mais il n'est jamais en studio avant 7 heures parce qu'ils mettent des spots pendant une demi-heure. Puis André, il est en train de se décrotter le nez aux toilettes. Là, il commence juste à 7 heures.
Ouais.
Alors, je dis à Raymond Laforêt, on va appeler à Saint-Siméon pour faire une entrevue, puis on va la canner, on l'a enregistrée en même temps qu'on l'a fait. Puis comme c'est la grosse nouvelle, on va la rejouer 3-4 fois d'ici 9 heures. Ça fait que même si Arthur appelle, nous autres, on pourrait dire, ah, regarde, on lui a parlé avant lui, puis on éditera l'entrevue même pour la rendre plus intéressante s'il faut, tu comprends.
Ouais.
Fait que l'émission commence à 5 heures, pile, bonjour, de l'autre Thibaudeau, blablabla, hey, tragédie hier, tu sais, je lis le gros titre du journal, puis je dis, on va appeler. Puis pendant que je dis ça, mon opérateur Raymond est au téléphone, titou, 1-418, puis il appelle. Puis je dis, on va parler à M. le curé. Fait que là, ça sonne. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups.
Il était dans son lit.
Fait que là, j'ai dit, tabarnouche, peut-être que le presbytère, peut-être que la ligne qui relie, tu sais, peut-être qu'il n'y a plus de ligne téléphonique, tu sais. Cinquième, sixième coup, allô? Tu sais. Je dis, oui, Est-ce que je suis bien au presbytère de Saint-Siméon?
Tout ça, c'est live, là.
Oui. Alors, la voix féminine dit « Oui ». Oh, je dis « Bon, excusez-moi d'appeler si tôt, je m'identifie, Claude Thibodeau, Radio Québec, blablabla, ouais, OK ». J'ai dit, d'abord, nos sympathies, c'est épouvantable ce qui vous était. Ah, c'est un grand malheur, monsieur. Puis ça. J'ai dit, c'est pour ça qu'on vous appelle si tôt. J'ai dit, je m'excuse, est-ce que je vous réveille? T'sais? Puis la madame a dit, oui. J'ai dit, vous devez être la ménagère du presbytère, madame curé. Puis ça, elle a dit, oui. J'ai dit, est-ce que je pourrais parler à monsieur le curé? Elle a dit, oui, je vous le passe. Puis là, t'entends l'acoustique. Puis là, elle a dit, tiens, c'est pour toi. Et là, oui, allô? Je disais, monsieur le curé, oui, est-ce que je vous réveille? Oui. Alors?
Ça, c'était en 80?
81. Et là, pouf, les lignes explosent.
Wow.
Et là, moi, je fais une ligne ouverte.
Ben oui.
Ça fait que je prends un téléphone. Ça fait que t'avais la moitié des gens qui disaient, t'es un enfant de chienne d'avoir fait ça, t'es un trou du cul, il n'y a pas de mots d'écrire. Ouais. Ce que tu as fait, c'est épouvantable, etc. Puis l'appel d'après, c'était, tu parles, toi, on comprend pourquoi ça a brûlé au solage, tu sais, je veux dire, c'est la foudre, c'est la main de Dieu, tu sais, tu comprends?
Ben oui.
Fait que c'est ce qui m'est arrivé comme animateur radio dans le métier d'animateur.
Mais je savais pas que t'étais cabotin comme ça, parce que moi, je me souviens alors, de ben, toi comme animateur, mais plus tard.
J'ai pas fait exprès, ben, tu sais, dans alors, le sens
arrête,
que, tu sais, si ça avait été le curé, j'aurais dit, je vous réveille, il aurait dit oui, puis j'aurais compris qu'il dormait, parce qu'il avait eu une mauvaise soirée la veille. Mais c'est là, c'est parce que c'est Mme Curie qui a répondu.
Oui.
Tu comprends? Fait que, ça a été assez rock'n'roll. Puis au niveau de la radio FM, la chose la plus spectaculaire que j'ai probablement faite, ça a été une émission du zoo qu'on avait fait qui s'appelait Le zoo dans l'eau. On avait fait une émission sous-marine en direct de la piscine du PEPS. Madame la mairesse André Boucher était dans une chaloupe à la surface de la piscine et elle ramait en faisant des commentaires sur le contenu de l'émission. Puis mes collègues, Gilles, Michel et tous les autres, étaient dans le fond de la piscine.
Puis toi, t'acceptais tout ça, là?
Bien, j'acceptais. Non seulement j'acceptais, c'était mon idée. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, c'était un 1er avril, on voulait faire une surprise du 1er avril, un coupandable. On s'est dit, les gens ne croiront pas. T'sais. Alors, je me suis dit, quand tu le vois, tu le crois. Fait que je suis allé voir Bob Dawson, qui dirigeait à l'époque CKMI, la station de télévision anglophone de Québec. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais le matin, toi, de bonne heure? Je mets ma face dans les yeux avec les barres de couleur. Tu sais, il n'y a rien, il n'y a pas de programme le matin. Mais j'ai dit, regarde, je vais te fournir une émission. Fournis-moi des caméras sous-marines. On va mettre des caméras sous-marines, puis tu vas filmer, puis tu pourras synchroniser nos pauses publicitaires. Puis tout ce que tu vendras à la télévision en même temps que mes pauses publicitaires de radio, tu le garderas pour toi. OK. Et CKMI, à l'époque, comme c'était une station anglophone de premier service pour Radio-Canada, CBC anglais, était retransportée par tous les réseaux de câbles de tout l'est du Québec, de Trois-Rivières, aller jusqu'à fin fond de Natashquan. Tu comprends?
C'est génial.
Alors, ça a été vu partout. Et j'ai convaincu Jean-Claude Labbé, qui nous écoute peut-être et que je salue, qui était le directeur, l'éditeur du Journal de Québec, d'embarquer dans le party avec nous autres. Et Jean-Claude m'a fait confiance. Et le matin où on a fait ça, Yannick, la première page du Journal de Québec montrait les gars, Gilles et compagnie, dans l'eau avec les bulles, parce qu'on avait pratiqué dans les bassins du groupe Océan, le groupe qui gère des services de remorquage puis de dépannage maritime dans le fleuve Saint-Laurent. Il était notre partenaire là-dedans. Alors, j'avais la diffusion dans la moitié de la province de Québec à la télévision en direct, gratis. J'avais le show le plus extraordinaire et le record Guinness obtenu parce qu'on avait fait une affaire qui ne s'était jamais faite avant. Et j'avais la première page du journal en même temps. Alors, c'est ce genre de réflexion-là qui fait que le monde dit « as-tu vu ce qu'ils ont? » C'est ça. Alors, il faut que tu veuilles faire ça. Ça coûte cher.
Ouais.
Moi, si le comptable, si mon gérant de banque, dit, comment ça t'a coûté, ça? Mais je passais à CNN.
Il n'y a pas de prix.
Il n'y a pas de prix pour ça. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Ouais, OK. T'sais. Mais va convaincre un comptable de faire, ouais, mais on est-tu sûr? Puis on va dire, non, je suis pas sûr. Je ne peux pas rien te garantir. Mais c'est sûr que si Adolf Hitler ressuscite, puis je l'ai, à tout le monde en parle, je pense qu'on va avoir des ratings.
C'est clair. T'sais? C'est clair. Puis ça avait fonctionné. Étais-tu derrière aussi la toune qui avait été mise pratiquement toute la journée?
Ça, c'était l'idée de Gilles.
C'était l'idée de Gilles?
Oui, ça s'appelait Tarzan Boy, je crois, d'un groupe dont j'oublie le nom.
Hey, ça, là,
puis Gilles avait dit, on va faire de niaiserie, on va mettre la même chanson pendant 3 heures de temps.
Ouais.
Ça fait qu'on privilégiait...
On en parlait à l'école.
Ben, c'est sûr.
Claude, on en parlait à l'école de vos niaiseries.
La promotion la plus... dont je suis le plus fier que j'ai fait, OK, une promotion que j'ai créée. Quand je dis promotion, je parle pas un stunt, là, comme l'histoire dans l'eau.
Ouais.
Je parle un concours, OK? En 1980, faut pas que je me trompe, je pense que c'est 85 dans ces eaux-là. Après notre retour de la fermeture du CRTC, les gens de Radio Mutuelle, Chic, Radio Énergie, demandent de transformer leur station en une station dance. Et là, on regarde le résultat à travers le Québec et on se rend compte que dans tous les marchés où ils ont une station tchikaboum, tchikaboum, ça score chez les très, très jeunes. Alors, mon directeur des ventes, Renal Journaud, qui est un gars brillant, me dit « Oh, on va sûrement se faire éplucher un petit peu sur les plus jeunes, à moins que tu aies une idée. » Je vais avoir une idée. J'ai pris mon auto, puis je suis allé voir un de mes professeurs de l'école de secondaire, Clément Binette, à Sainte-Marie, à la Polyvalente, qui avait été un professeur extraordinaire, qui s'occupait de la radio étudiante.
Qui est mort aujourd'hui, mais qui était un maudit bon bonhomme. Là.
Je sais pas s'il est mort.
Oui, il est décédé, M. Binette.
Es-tu sérieux?
Oui.
Alors, tout ça pour dire que je salue sa mémoire. Alors, je vais voir Clément, puis je dis à Clément, si tu avais à me résumer la chose qui est la plus centrale dans la vie d'un jeune à l'école secondaire, qu'est-ce que ce serait?
Ouais.
Central? Oui, central. Qui gravite, là, on peut pas y échapper. Là, moi, je pensais qu'il m'arriverait avec des affaires de telle émission de télévision. Mais c'est pas compliqué. Sa case, son casier, à tous les cours, il faut qu'il quitte son cours de mathématiques, qu'il aille à sa case, qu'il droppe ses cahiers de maths, qu'il prenne ses cahiers de biologie, qu'il aille au cours de bio. Après ça, il revient, il se regarde dans le miroir, voir s'il est encore beau, pète ses boutons, puis il prend son cahier de je sais pas trop quoi, ou ses chouclacs, puis il s'en va au cours de... Tu sais, tu comprends? Alors, sa vie gravite autour de la case. Très bon. Fait que là, je réfléchis, et je me suis dit, on va faire un concours qui va s'appeler la case au trésor. Et on va la destiner aux jeunes du secondaire, en plein la cible dans laquelle Chic, Radio, Tchikaboum, Tchikaboum, devait nous faire mal. Alors, le principe du concours était très simple. Vous êtes dans n'importe quelle école où vous entendez notre voix du FM 93, Lac Mégantic, Disraeli, peu importe. Envoyez-nous une carte postale et identifiez-nous votre école. À tous les matins, à 8h moins quart, Gilles Parent va sortir une carte du baril, puis il va dire de quelle école elle nous provient. Alors, si c'est l'école secondaire de Disraeli, les 10 premiers étudiants de l'école secondaire de Disraeli qui nous appellent dans les 9 minutes 30 secondes, quelque chose dont on faisait un chef-front avec 93, ou dans les 13 minutes qui suivent, vont gagner 93 $ cash juste pour nous avoir appelés, OK, parce que vous étiez à l'écoute. Mais, c'est pas tout, cet après-midi, parce que vous avez inscrit votre école, l'école de Disraeli, dans mon exemple, à 4h15, Jack, dans son show en après-midi,
Jack
Roy va donner un numéro de case. Si c'est votre case et que vous rappelez à l'intérieur de 13 minutes, vous gagnez 930 $ cash. Puis on est dans les années 80.
Ouais.
Oh my God! Ça fait que là, de quoi tu penses que ça parlait dans l'autobus ce matin-là?
Ça parlait de ça.
À Disraeli, ça parlait de ça. Puis là, dans les autres écoles, puis là, hey, t'es chéri, si t'es sur chantier de construction, mets ton radio, parce que s'il nomme le numéro de corps 808, c'est celui de notre petit Guillaume.
Chauffeur d'autobus.
Tout le monde! Ça fait que quand le BBM est sorti, chic, puis nous autres, tu sais, tu comprends. Alors, le défi d'un bon gestionnaire de masse média, c'est de réfléchir à ce qu'il peut faire de mieux pour exploiter ou contourner des circonstances désagréables. Et c'est pour ça que la réaction des autorités canadiennes actuellement à l'attitude du président américain me fait quier au cube, parce que je trouve qu'on dort au gaz.
Oui. Ah, oh, puis on dort au gaz depuis des années. Quand tu regardes les médias en général, que ce soit la télé, la radio, l'écrit, as-tu des choses qui t'exaspèrent? As-tu des choses que ces gens-là pourraient faire peut-être autrement, qui feraient en sorte qu'on releverait un peu plus la barre?
Bien, mon credo à moi, puis ce que j'ai vérifié, Yannick, dans ma carrière, c'est que c'est l'efficacité qui triomphe à la fin de la journée. Et, tu sais, quand les journaux se sont mis à péricliter, tu sais, puis ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, regarde, le journal était une créature de la révolution industrielle. Quand la révolution industrielle est arrivée aux États-Unis, puis que les barons de l'industrie, les propriétaires d'usines de papier, puis de chemins de fer, puis les grands propriétaires fonciers de New York, quand tout le monde s'est mis à s'enrichir outrageusement au détriment du petit peuple, il y a des partis politiques qui ont dit, il y a un instant, là, il faut comme redistribuer la richesse. Tu sais, cette phrase qui est horripile, qui donne des boutons là, aux Républicains et à Pierre Poilievre. Alors, ils ont créé des partis politiques pour y parvenir, puis ils se sont dit, ça nous prend un haut-parleur. À l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de Facebook. Alors, pour rejoindre les gens, tu créais des journaux. Et le journal était une créature parfaite de la révolution industrielle. Pourquoi je dis ça? Tu payais des bûcherons pour aller dans le bois à Jackman, couper de la pitoune. T'envoyais un gars de camion qui, avec son truck, transportait la pitoune entre le camp de bûcherons puis la gare de chemin de fer. Tu chargeais un train, tu mettais du charbon dedans, t'amenais la pitoune à Brakeyville, chez John Brakey. John Brakey déchargeait le camion, faisait du papier, prenait le papier, le remettait dans un autre camion, l'envoyait au journal Le Soleil. Le journal Le Soleil le rentrait dans l'imprimerie, imprimait le journal ce matin-là, mettait le journal dans un camion et l'amenait chez Yannick Marceau. Pfiouf, essoufflant, tu sais. Alors, qui peut se permettre une chaîne qui gaspille et qui, comment dirais-je, manque d'efficacité à ce point-là? Personne. Et c'est pour ça que des journaux papier, il n'y en a presque, encore, mais presque plus. Et ce n'est plus avec les éditions papier qui font l'argent. Ouais. Parce que c'était
le... Il y en avait deux par jour.
C'était, oui, fut un deux temps, éditions. Oui, tu avais deux éditions. Tu sais, c'était le pinacle de l'inefficacité. Puis, à la décharge des gens des journaux, quand je suis arrivé au Soleil, moi, en 2000, que j'ai été engagé par Conrad Black pour faire un redressement au Soleil, parce que ça baissait dangereusement, je pense que je t'en ai parlé. M. Black m'a dit, tu fais ce que tu veux, en autant que, tu sais, ça monte. Puis, alors, j'ai fait ce que je pensais que je devais faire. Puis j'ai regardé quelles étaient les meilleures pratiques dans le monde du journalisme écrit, tu sais, des journaux à travers l'Amérique du Nord et même en Europe, pour voir qui s'était cassé la gueule puis qui réussissait à surnager dans un tel marasme. J'ai emprunté, j'ai rien inventé, j'ai emprunté aux meilleures idées. Je vais donner un exemple. Il y a un journal que tu connais peut-être qui est installé à Miami qui s'appelle le Miami Herald. Okay? C'est une institution. À un moment donné, dans les années 80, le Miami Herald, ça s'est mis à aller pas mal moins bien. Et les ventes par abonnement ont dramatiquement chuté. C'était finalement les ventes de crieurs puis de kiosques à journaux qui les faisaient survivre. Mais même ça, c'était en déclin. Alors, qu'est-ce que les autorités du Miami Herald ont fait? Ils se sont dit, il faut absolument qu'on enfonce notre journal dans la gorge de gens qui s'en vont travailler le matin et qui n'ont pas le réflexe de s'y être abonné ou de l'acheter dans un kiosque. On va faire ça comment? Ils ont réuni tous les homeless de la ville, possible et imaginable, puis ils ont dit à ces gens-là, dans un grand meeting, à tous les matins, dis-nous dans quel coin de rue tu couches, là, on va aller te livrer 150 copies du Miami Herald. OK? On te les donne. Vends-les le prix que tu voudras et garde l'argent. Oh my God! Ça fait que là, sur chaque coin de rue importé à Miami, quand la lumière était rouge, je t'annonce qu'au lieu de t'offrir de laver ton windshield en crachant dedans avec un squeegee, ce qu'ils t'offraient, c'était « Hey, avez-vous lu le maire? » Au moins, il y avait un produit à offrir. Puis le client disait « Oh, je me suis fait offrir tantôt. Tu le vends comment? » 50 cents. Puis là, il y avait un autre homeless au bord de la rue qui disait « Non, moi, je le vends 25 cents. » Fait que le gars disait « OK, je vais traverser la lumière verte, là, puis je vais le prendre au bord. Écoutez-moi, OK, moi, te le fais à 25 cents, moi, tu comprends? » Fait que dans le temps de le dire, la circulation du Miami Herald a monté dramatiquement.
Ouais.
Parce que, alors, au grand mot, les grands remèdes. Puis, j'ai appris aussi une vérité incontournable de l'industrie des médias. Tu vas me dire, je l'ai appris tard. En fait, je la savais intuitivement, mais on me l'a démontré. Il y a une fille qui travaillait dans une grande agence de publicité, l'espèce d'agence Cossette locale à Dallas, au Texas. Et elle était responsable de la publicité pour le Dallas Morning News, qui était le plus gros journal local. Et à un moment donné, les gens du Dallas Morning News étaient tellement impressionnés de la qualité de cette fille-là qu'ils lui ont dit « Tu vas quitter l'agence et tu vas venir travailler pour nous comme directrice du marketing parce qu'on en a besoin. » Elle a dit « J'ai une condition. » « Ah oui, laquelle? » « Je veux que vous me donniez un mois pour faire une étude de marché et je vais vous la présenter et je vais vous dire mes conclusions. Et si vous adhérez à mes conclusions, j'irai travailler pour vous. Si vous y adhérez pas, trouvez-vous quelqu'un d'autre. » Et on dit « OK. » Fait qu'elle a fait une étude. Elle s'est rendue dans tous les kiosques à journaux de Dallas avec une équipe à tous les matins. Et elle interrogeait les gens qu'elle voyait sortir avec une copie du Dallas Morning News. pourquoi achetez-vous le Dallas Morning News? Les gens donnaient leur raison. Ils notaient ça. Et elle se disait, ces gens-là, ils ne sont pas abonnés. Fait que s'ils prennent le temps d'arrêter le retour, de mettre ça sur parc, de mettre la switch à off, de rentrer en dedans, de prendre une copie, faut-tu qu'ils veuillent le Dallas Morning News? Donc, je peux me fier à ce que ces gens-là me disent. Elle a fait une présentation. Elle s'est présentée dans le bureau du conseil d'administration du Dallas Morning News. Là, les gens disaient, hey, on a hâte de voir ce qu'elle va nous dire. Fait que là, elle a dit au rédacteur en chef, d'après toi, pourquoi les gens lisent-ils le Dallas Morning News? Oh, écoute, on a gagné 8 prix Pulitzer, puis on a, tu sais, puis elle a fait le tour de la table. Et là, écoute, c'était la guerre de l'ego, là. Tu sais, on était après Dieu, c'était le Dallas Morning News. Elle a dit, vous l'avez pas, pantoute. Les gens nous disent qu'ils achètent le Dallas Morning News parce que le caractère des mots croisés est plus gros à la page 11. Hein? Wow. Ça peut pas. Oui, c'est ça. Et un paquet d'autres raisons. Alors, écoute, ça criait chou, elle se faisait lancer des papiers, il y en a qui sortaient de la salle. Mais elle dit, garde, je vais vous expliquer les principes de la vie, là. Elle a pris un crayon feutre puis un bout de papier sur le mur, puis elle a pris un feutre, puis elle a fait un grand triangle. C'est un triangle équilatéral à trois faces, trois points. Elle a dit, en haut, c'est votre maison. En bas à gauche, c'est là où vous travaillez. Puis en bas à droite, c'est là où sont vos enfants actuellement. Ça peut être l'école, ça peut être la garderie, ça peut être le camp de vacances, là, peu importe. Tout ce qui se passe à l'intérieur du triangle vous intéresse hautement. Parce que si ce matin-là, en t'en allant travailler, t'apprends que le boulevard Le Bourgneuf, s'il est bloqué parce qu'il y a une tuyauterie qui a sauté quelque part, puis tu vas arriver en retard à ton bureau, puis ta boutique, tu sais, tu comprends, ça t'intéresse en sacrement. Si tes enfants, l'école a brûlé, tu veux savoir. Alors, tout ce qui arrive dans le triangle qui peut influencer, les Américains appellent ça « news you can use », des nouvelles qui te seront utile.
Ouais.
Tout le reste que la Hamas a signé un accord, c'est intéressant de le savoir, mais ça va-tu changer ma vie?
Concrètement.
Right fucking now.
Non.
Réponse, non. Alors, écoute, un choc, tu dis, ils l'ont pas engagé, puis le tirage va continuer.
Et pourtant, elle avait raison. Est-ce que la qualité des employés a changé aussi dans les médias, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé? Moi, je me souviens du temps où c'était des passionnés, des gens qui comptaient pas leurs heures. T'as connu ça, toi, avec les gars comme Jules Parent, tu sais, ces gars-là dans leur équipe, ils travaillaient quasiment 20 heures par jour. Aujourd'hui, ça se voit pas, ça. Puis aujourd'hui, puis il y a quelque chose que tu as déjà dit, puis tu l'as répété dans le podcast, ça m'a fait bien rire. Puis j'ai eu cette discussion-là avec un employé d'une autre station de radio qui se posait des questions à savoir s'il allait devenir porte-parole d'une entreprise X. Je dis, mais t'en as-tu d'autres entreprises qui veulent t'embaucher comme porte-parole? Puis il me disait, non, mais moi, il dit, ça ne me tente pas là, de représenter une entreprise. Mais je lui ai dit, mais c'est parce qu'on fait ça de notre job. C'est notre job de vendre du papier de toilette. C'est notre job de vendre.
Je crois que quand on s'est vu, toi et moi, la dernière fois, à cette même antenne, au mois de février dernier, lors du jour anniversaire, le jour mondial de la radio, je pense que tu m'avais invité. Je t'avais expliqué la leçon de communication que m'avait fait Israel Asper de Global, qui m'avait dit, vous êtes juste des vendeurs de savon. C'est à ça que vous servez. Ouais, vous vendez des chars, des voyages, des autos, vous vendez du linge. C'est à ça qu'on sert.
Ouais. Mais là, on a des journalistes qui veulent juste travailler 40 heures par semaine.
Ouais.
On a des animateurs de radio qui veulent travailler le moins d'heures possible par jour. Je trouve que dans nos carrières, il y a énormément de gens qui sont lâches puis qui ne comprennent pas qu'ils sont là pour les gens plutôt que pour eux-mêmes.
Oui, ce que tu dis est exact. Par contre, je te dirais que la vie m'a permis de constater la chose suivante. Okay? Ce que je veux dire n'est pas poli. Là, s'il y a des jeunes oreilles qui nous écoutent, là, baissez le volume. Là. Quelqu'un m'a déjà dit, si tu travailles comme un crisse de fou, tu vas avoir des résultats de crisse de fou. Et c'est vrai. Si tu te pognes le beigne puis tu ne travailles pas, il ne t'arrivera pas grand-chose.
Mm-hmm.
Le point, c'est l'équilibre. Oui, l'équilibre. L'éthique de travail d'aujourd'hui, je suis pas le premier à dire ça, là, tu sais, le jeune qui commence pour servir des burgers chez Ashton, puis il veut pas travailler samedi, puis tu sais, je dis, non, moi j'ai mes vacances, puis tu sais. Alors, les attentes, les expectatives, il semble que de façon générationnelle, il y ait une nouvelle cohorte de gens qui disent, ouh, slack les moteurs, tu sais, pas vrai, tu vas t'enrichir, puis moi je vais travailler comme un fou, puis etc. T'sais. Alors, je n'ai pas actuellement dans ma vie à gérer le casse-tête de gérer du personnel. Je peux te dire cependant que si j'avais à gérer une station de radio aujourd'hui ou de télévision et que j'avais le pouvoir de choisir mon personnel, je serais probablement beaucoup plus pointilleux dans ma sélection d'individus que ce que j'entends dans le présentoir radiophonique ou télévisuel moyen.
Mais ça doit d'abord passer par la passion. Es-tu passionné par ton métier de journaliste? Es-tu passionné par oui. ton métier d'animateur? Es-tu oui. passionné par...
Mais une fois que tu as compris ça, Yannick, ouais. la bataille que j'ai menée au soleil, moi, que j'ai eu à mener au soleil, puis je n'en revenais pas qu'ils ne comprennent pas ça, c'est... Je pense que je l'avais déjà expliqué. Le problème des médias aujourd'hui, c'est le temps disponible que les gens ont pour t'écouter, te lire, regarder tes images, etc. Alors, les journalistes sont investis dans ce qu'ils font, travaillent fort, font de longues recherches. Ils veulent écrire un article de 3 pages. Si tu écris un article de 3 pages, personne ne va le lire.
Exact.
Ils n'ont pas le temps. Alors, tu vas être passer dans le beurre, tu vas être comme la magnifique pomme qui vient de Rougemont, qui est au bout du présentoir. Personne ne l'a vu, donc personne elle va pourrir là. Il faut que tu sois près de la caisse. Il faut que tu sois... Ah ouais, tu as le goût d'une pomme, je la prends. Il faudrait même qu'elle soit coupée en cause, en quartier de pomme même, pour que ça aille plus vite. Tu sais, d'un verre en plastique avec une fourchette.
Ouais.
Tu sais, j'ai le goût des pommes. Là, 3 bouchées, pas comme je te dois, puis tu sors, puis tu as mangé ta pomme. Tu sais, il faut que tu t'adaptes à la façon dont ta clientèle te consomme. Et peut se permettre de te consommer.
Exact.
Alors, si tu fais pas ça, peu importe ta business, t'es mort.
Ouais, puis j'osais hier avec un journaliste parce que j'ai mis la main sur la vidéo qui montrait la voiture qui était recherchée par les policiers de la Sûreté du Québec hier. J'ai mis la main dessus, je l'ai diffusé sur Internet. Les policiers m'avaient confirmé, c'est des sources confidentielles, mais ils m'avaient confirmé que c'était bel et bien le véhicule qu'ils recherchaient. Ça a été partagé par énormément de gens, mais j'avais communiqué aussi avec des chums qui travaillent dans les médias, autant au Soleil qu'au Journal de Québec, puis je leur ai donné cette vidéo-là. Puis sur les 3 qui m'ont répondu, « Ah Yann, c'est pas moi qui travaille à soir. » Sacrifice. Tu travailles pas à soir.
Ouais.
Tu as la chance de mettre quelque chose sur ton média qui va c'est faire parce... en sorte ouais. que ça va être lu plusieurs
c'est
fois.
Parce que le gars des Blood Family fois. Mafia, lui, il travaillait à soir.
Exact.
Puis les gens de Sainte-Marie, ils font des boutons à soir.
C'est ça.
Fait que, au pair.
Mais des fois, on se demande, mais pourquoi ces gens-là font ce métier-là? C'est pas un métier où faut que tu comptes tes heures.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a une partie des problématiques de médias. Peut-être que les syndicats embarquent là-dedans aussi, Claude, on va se le dire, là. Mais il manque de passionnés, ça manque d'amour dans les médias. Puis à un moment donné, si toi, tu te mets de l'avant puis tu penses faire ce métier-là pour te monter dans la vie plutôt que de travailler pour ton auditoire, il y a un ressenti.
Oui, c'est vrai. T'as raison. Je peux pas te contredire, mais que veux-tu?
Je pensais m'assiner avec toi ce soir. Ce soir, on a le plaisir d'être avec... je vais l'appeler
demain. Faut qu'on parle de politique un
ben
peu
oui,
tôt.
L'excellent Claude Thibodeau. Je l'ai dit tantôt, je vais le redire. Je me sens privilégié de t'avoir une fois de temps en temps à l'antenne. Puis d'ailleurs, dans quelques semaines, on va se revoir. Il y a des salons qui s'en viennent.
Oui, mais mes employeurs vont sûrement, mes clients vont sûrement implorer ton hospitalité pour que je vienne te parler du salon Expo Moto.
Exact. Mais c'est déjà booké.
C'est
déjà booké.
C'est bon.
Ils m'ont dit « Claude va être là ». Je dis « C'est beau, on va le prendre ». Donc, on va le réentendre dans les prochaines semaines.
Ça fait plaisir.
Sur les ondes de Boulevard. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis, 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneurs qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis, 18h.
Boulevard 101. Ça fait depuis septembre que tu l'attends. Tes ailes de poulet sont achetées puis tes chums sont bookés.
La plus grosse game de foot de l'année est à nos portes. Et Boulevard 102.1 va offrir un touchdown à ton salon.
Sois à l'écoute ce lundi 20 janvier pour faire de ta maison un vrai stade et impressionner ta gang.
Oh, et on me dit à l'oreille que Stéréo Plus va faire partie de la mêlée. Vous allez être renversés!
Vous conduisez une européenne? Pour le meilleur service, c'est chez Eurospec. Offrez-vous la qualité du concessionnaire au prix d'un garage indépendant. euro-spec.ca.
Tu es curieux, informé, tu rêves de faire de la radio? Viens suivre une formation en animation radiophonique et web au Collège Radio-Télévision de Québec. Enseignant issu du milieu, cours axés sur la pratique, diplôme en deux sessions seulement, programme admissible aux prêts et bourses. Informe-toi dès maintenant. Détails au crtq.ca.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Les jours gros rabais sont arrivés chez Mondou. À l'achat d'un moyen format de nourriture sèche pour chat et chien de marque Royal Canin, épargnez 9 $. D'ici le 19 janvier, passez en magasin ou consultez le mondou.com.
La clinique Ovel offre des soins de santé pour les femmes, gestion des symptômes gynéco-urinaires, périménopause, hormonothérapie, contraception, fertilité et plus. Nos infirmières praticiennes vous écoutent et prennent vos symptômes au sérieux. À Lac-Beauport, Portneuf et Beaupré ou en téléconsultation. Rendez-vous sur cliniqueovel.ca.
À Fleur de Lys, nous avons tout ce qu'il vous manque et même tout ce que vous ne saviez pas qu'il vous manquait. En habitant au-dessus d'une galerie marchande, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sans mettre le nez dehors. Fleur de Lys, c'est votre condo locatif pour vos besoins, vos goûts et vos habitudes. C'est du confort, du service et de l'élégance. Fleur de Lys, votre bien-être, notre raison d'être. L'espace location est ouvert 7 jours sur 7. Place Fleur de Lys, porte 3. Détails à fleurdelys.com.
Les inscriptions pour le triathlon Michel Sarrazin sont ouvertes. Vivez un événement hors du commun au Centre de glace Intact Assurance. Permettez à la maison Michel Sarrazin de continuer à offrir gratuitement un accompagnement de qualité aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. Triathlon.ca.
LBB Notaire vous souhaite une excellente année 2025. Commencez l'année sereinement en mettant à jour vos documents juridiques. Que ce soit pour un testament, un mandat ou autre, nos experts sont là pour vous. LBB Notaire est aussi à la recherche d'une personne pour agrandir l'équipe. Contactez-nous.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, t'attend avec ses quatre extravagances carnavalesques. Du 10 au 13 février, Laser Game Evolution à la Citadelle, gratuit avec effigie. Le 15 février, Nuit Blanche Carnavalesque Pop Underwear, un party pyjama adulte toute la nuit avec plein de surprises. Les 8 et 9 février, descente en rappel sur le Fairmont, le Château Frontenac. Et le 16 février, Graffe ton palais, activité de graffiti sur le palais de bonhomme, gratuit avec effigie. Détails au carnaval.qc.ca.
Atelier de mécanique Boivin. Établi depuis plus de 40 ans dans le domaine de la fabrication mécanique, est à la recherche d'un machiniste et d'un soudeur. Salaire concurrentiel jusqu'à 40 $ de l'heure. Sur la rue Lavoisier à Québec, atelier de mécanique Boivin.
Postulez au info@commercialmecboivin.com.
Moins de motivation pour cuisiner? Laissez Bouffe et compagnie réchauffer vos soirées. Repas savoureux, prêt en quelques minutes. Fini les casse-têtes pour le souper. Découvrez un nouveau menu chaque semaine, simple et sans tracas. Bouffe et compagnie, votre allié gourmand cet hiver. Visitez Bouffe Essie.com.
Dans les aides-chemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando, de la neige en masse, de la pêche sur glace, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. Tourisme-aides-chemins.qc.ca.
Le complexe de tennis intérieur de Saint-Augustin, c'est 6 terrains intérieurs et maintenant 3 terrains de pickleball. C'est aussi 2 terrains extérieurs pendant la saison estivale et une salle d'entraînement. Le complexe de tennis intérieur de Saint-Augustin. Tout pour débuter l'année du bon pied.
Économisez gros sur les montures de grande marque chez Gresh et Scaff. Jusqu'au 15 février, économisez de 30 à 50 sur toutes les montures de grande marque à l'achat d'une paire complète. Oui, jusqu'à 50. Chantal Gravel, opticienne, réservez votre examen ou apportez votre prescription chez Gresh et Scaff.
C'est la vente 8-8 chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les raisins verts ou rouges sans pépins à 1,88 la livre, les pilons de poulet à 1,88 la livre et le beurre Lactantia à 4,88. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Dernière chance de profiter des rabais gouvernementaux sur les véhicules électriques chez Desjardins Volkswagen à Charlebourg. Meilleur prix de l'année avec 9000 $ en rabais combiné plus des taux à partir de 0%. Plusieurs configurations sont livrables avant le 1er février. Détails au desjardinsvolkswagen.ca.
Chez Dooley's, jusqu'au 15 février, profitez d'un rabais équivalent à la TVQ sur toute la nourriture et les boissons admissibles. Manger et boire moins cher, c'est bon. Certaines conditions s'appliquent.
S'amuser, boire et manger.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant! Viens étudier au centre-ville avec des enseignants spécialisés dans leur domaine. Technique juridique, marketing des médias sociaux et animation radiophonique du CRTQ. Tous les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca.
Bouillard.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Bouillard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Claude Thibodeau est avec nous ce soir pour les encore pour un peu de temps. Puis je vois ses grands yeux qui me regardent là, travailler puis opérer tout seul. Lui, il a connu les années où ça prenait. Il y avait comme 60 journalistes dans la place. Ça te fait-tu halluciner de voir à quel point les équipes sont restreintes maintenant pour faire à peu près la même chose que vous faisiez dans le temps? Mais vous autres, c'était plus mécanique. Là. Vous aviez plein d'opérations à faire. Fait que ouais, normalement, ben
on
a, ça prend
on,
plus
on
de temps.
On n'avait pas l'automation.
Exact.
Tu sais, quand les gens disent aujourd'hui, tu sais, quand les supporters de M. Trump, là, les MAGA avec leur calotte, disent « Hey, on a perdu nos jobs à cause des Canadiens et des Chinois. Ben, » t'as pas juste perdu ta job à cause de ça, Bill. T'as perdu ta job à cause de l'automation.
Ouais.
Puis quand Ronald Reagan, dans les années 80, qui était un champion de la droite, a décidé qu'il réduisait dramatiquement les impôts sur les particuliers aux États-Unis et sur les compagnies, ça procédait de la logique suivante. Ça procédait de « on est trop taxé, et parce qu'on est trop taxé, on envoie trop d'argent au gouvernement. Et le gouvernement est trop gros. Alors, si on affame le gouvernement, si on coupe les impôts, il va rentrer moins d'argent. S'il rentre moins d'argent, le département de la petite patente qui fait bling-bling là-bas, puis dont on n'a absolument pas besoin, à un moment donné, les politiciens vont être obligés de le fermer. » Mais le jour où les politiciens ont voulu fermer le département bling-bling parce qu'il rentrait moins d'argent, parce que M. Reagan avait passé les impôts, les représentants au Congrès et les sénateurs ont dit « Oh, un instant, là, le quartier général du service du gouvernement qui fait bling-bling, là, c'est dans mon état, ça, là, moi, là. J'ai 850 personnes là, qui dans cette ville-là. » Puis tu sais, fait que non, on ferme pas. Fait que, morale d'histoire, ils n'ont pas fermé. Alors, le gouvernement était en déficit. Les déficits se sont accrus. Et à un moment donné, ils ont dit « écœurant déficit ». Ben oui. Les États-Unis ont été construits dans une révolution industrielle qui s'est échelonnée de 1907-8 jusqu'à 1955 à peu près. Là, ça a été l'âge d'or. Et c'est la période dans laquelle les impôts aux États-Unis étaient les plus élevés. Un citoyen, prenons un exemple, Henry Ford. Prenons M. Ford, là, de la compagnie Ford, le fondateur de Ford. M. Ford, on s'entend que les affaires allaient bien, faisait de l'argent, c'était un des hommes les plus riches aux États-Unis. M. Ford, sais-tu combien il payait d'impôts sur ses gains personnels?
60 %
94. Et malgré ça, malgré 94 % il a réussi à devenir immensément riche. Alors, quand les gouvernements ont effectué ces ponctions-là sur les gens qui gagnaient à l'époque plus de 200 000 $, ce qui est à présent 1,5 million aujourd'hui, à peu près, en dollars d'aujourd'hui, l'argent rentrait par des châssis en bâtisse. Yannick. Alors là, ils ont construit des tunnels, des ponts, des autoroutes. Tu sais. Alors, mais ça, ça fait 60 ans. Fait que là, les ponts, ils rouillent. Il tombe, il y a des trous, il faut reconstruire l'aéroport.
Tout est à refaire.
Tout est à refaire, mais on a baissé dramatiquement les impôts pour des motifs politiques. Alors, c'est comme si une fort jolie femme mariait un millionnaire, puis il lui disait « Regarde, t'as trois Ferrari, deux maisons, un chalet en Floride, t'as une maison à Malibu, je te paye tout ça. » Et à un moment donné, arrive le divorce. L'argent ne rentre plus, mais la madame doit encore supporter toutes ces propriétés-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ou bien elle trouve l'argent. Ou bien avant en déficit. Alors, eux autres, ils ont choisi d'aller en déficit. C'est une façon de voir. Et dans tous les grands empires, que ce soit l'Empire britannique à l'époque, que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Empire américain, là, on peut dire que ça a commencé justement au début des années 1900, puis ça commence à flétrir un peu, là. Mais dans tous les grands empires, il y a toujours eu des luttes de classe. OK? T'as les gens qui sont près de l'empereur, la cour, tu sais, quand César était dans le stade puis qu'on mangeait des chrétiens avec des lions, là, il y avait du monde autour de lui, là, tu sais, puis c'était pas des pichoux, là, tu sais, c'était toutes les plus belles madames de la ville puis les messieurs qui sentaient le plus bon en ville puis les notables, puis tu sais. Alors, tu as, dans toutes les sociétés, dans tous les empires, tu as des élites. Il y a essentiellement trois grands types d'élites dans toutes les sociétés. Tu as les élites politiques, les élites financières et les élites culturelles dans toutes les sociétés, sans exception. Il arrive que les intérêts d'une de ces élites soient totalement contradictoires avec les intérêts de l'autre élite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, ça dépend que l'élite prend la décision. Si l'élite politique, dans une démocratie, éliminons la démocratie, quand tu es dans une dictature, quand tu fais partie de l'élite, fais ce que tu veux, Hitler, Mussolini, je nomme le Poutine, tu sais, je veux dire, c'est my way or the highway. Si tu vas tomber le balcon de ton condominium si tu ne fais pas ce que je te dis de faire ou ton avion va s'écraser demain, tu sais, c'est le même moment, on ne discute pas longtemps. Dans une démocratie, un homme, un vote, une femme, un vote. Oh, là, c'est un autre game. Là, le gars que tu as élu, puis que tu envoies à Ottawa ou à Québec ou à Washington, il est supposé te représenter. Mais si lui dit « Ouh, on fait pas mal trop de pollution là, avec les autos puis le pétrole, il faut mettre des normes, puis il faut mettre des antipollutions sur les autos, puis il faut réduire la consommation, pis etc. » L'élite d'affaires qui est de l'autre bord de la rue, elle a dit « Oh, un instant, là, ça là, c'est that's my money, là, c'est moi, là, c'est mon parti. Tu peux pas faire ça, tu peux pas me faire ça. » Ben oui, je représente le peuple. Alors, il y a un vieux dicton aux États-Unis qui dit « We have the best government that money can buy. » Alors, on a les meilleurs politiciens que l'on puisse acheter. Alors, à tous les jours, les gens qui sont au Congrès à Washington, dans leur bureau, le matin à 9h, secrétaire, tu les appelles, tu sais quoi d'important, faut que tu règles de quoi aujourd'hui, font du bureau, jusqu'à, tu sais, si ça siège pas, là, jusqu'à midi, vont dîner dans un excellent restaurant, ils se curent les dents de leur roast beef, puis là, ils traversent l'autre bord de la rue de leur bureau, dans un bel édifice à condo où sont installés les lobbyistes. Parce qu'un politicien élu aux États-Unis n'a pas le droit de solliciter des contributions financières de ses électeurs à l'intérieur de locaux où il exerce ses fonctions, parce qu'il serait vu en train d'essayer de faire, tu sais, d'obtenir de la payola. Mais s'il traverse au bord de la rue, dans
c'est correct.
Un beau bureau comme ici où nous sommes, avec des beaux téléphones, puis une belle secrétaire blonde, puis qui a un beau bottin téléphonique, puis il appelle, puis « Bonjour, je suis votre député, j'espère que vous allez m'aider, j'ai besoin de vous pour défendre la mémoire, ouais, m'a tombé 20 piastres. » Tu sais, alors... Ils passent leur journée à faire ça. Pourquoi? Parce que ça leur prend une caisse électorale pour se faire réélire. Parce que plusieurs de leurs électeurs qui trouvent qu'ils ont pas mal trop donné à l'élite des affaires au détriment de ce que le bon peuple aurait dû recevoir. Alors, il va falloir qu'ils fudgent ça et qu'ils mettent des belles annonces à la télévision d'eux en train de parler dans un marché devant un kiosque de fruits et légumes avec une mère de famille en disant « Je représente les intérêts des gens. » Tu sais, tu comprends? On a tous vu ça. Pendant ce temps, l'autre élite, l'élite culturelle, elle, plutôt des penseurs, des fumeux de thé, pis t'sais, eux autres, ils regardent la société évoluer, t'sais, les professeurs d'université, puis ça, puis ils disent « Ouh, il y a des choses inquiétantes qui surviennent. » Et eux veulent donner un « skew », donner une influence à ce qui se passe, t'sais, en tirant dans une direction plutôt qu'une autre. On devrait abolir les fossiles, les carburants fossiles, on devrait mettre des éoliennes partout, tu comprends, ce genre de choses. Alors, cet affrontement perpétuel et continu entre ces trois tensions-là dans tous les empires font que l'empire y dure ou il ne dure pas. Et maintenant, à la surface de la Terre, il y a trois grands blocs de pouvoir. Au moment où on se parle, mesdames, messieurs qui nous écoutez, là, en janvier 2025, là, il y a trois grands blocs d'influence actuellement. Il y a les États-Unis, qui sont une démocratie. Il y a la Chine, qui est une dictature communiste, et la Russie, qui est une dictature communiste.
Fait qu'on est tripolaire.
Voilà. Les gens qui représentent l'élite des affaires aux États-Unis, ils regardent ça aller, eux autres, dans le monde, puis ils se disent, sacrement, la dictature, c'est facile, la démocratie, c'est compliqué. M. Obama disait « Democracy is messy », tu sais. C'est dire, on va faire ça. Non, je veux pas, puis je vais aller en Cour suprême, puis on va te faire une pétition, puis on va aller manifester devant. T'sais. C'est tough, la démocratie, parce qu'il faut que tu tranches, faut que tu t'organises pour faire une conciliation entre les intérêts d'un et les intérêts de l'autre. Il faut que ce soit bipartisan. Maudit que c'est compliqué. Alors, les gens qui représentent le pouvoir financier aux États-Unis, le 1%, qui reçoit 21% des revenus du pays à l'heure actuelle, en payant seulement 24 % des impôts, ces gens-là, actuellement, ils regardent ça et ils se disent « On ne gagnera jamais contre la Chine. On ne gagnera jamais contre la Russie. C'est impossible. Ça se peut pas. »
C'est 1 % des gens qui...
Le 1 % américain, le top 1 % des États-Unis.
Paye 24 % des impôts.
Ils ont 21 % de tous les revenus.
21 de tous les revenus.
Oui, okay. On parle des revenus, on ne parle pas de la valeur de richesse. Là.
Je comprends.
On parle des revenus, l'argent généré là, sur le T4, là, si tu veux, là, puis sur le slip de dividendes. Okay? Eux, ils ont 21 % de tout ce qui se fait aux États-Unis en produit intérieur annuel va au top 1 %. Et pour ça, ils payent 24 % d'impôts.
Des 340 millions d'Américains.
Oui. Le 1 % paye 24 % des impôts. Mais... tu ne peux pas conduire 4 Ferrari en même temps. Tu ne peux pas te déplacer dans 12 jets privés en même temps. Alors, les gens qui représentent le milieu des affaires aux États-Unis regardent ça et se disent « On ne gagnera jamais. On ne gagnera pas contre la Chine. C'est impossible. C'est impossible parce que nous autres, on chicane tout le temps. C'est compliqué. Ça nous prendrait... qui c'est qu'on trouverait bien, donc, qui serait... là,
un grand orange.
Ouais,
qui rentre en poste dans 5 jours. 4 jours.
Qui tient des propos flamboyants, puis je vais vous redonner vos jobs, puis c'est quoi déjà? « I'm gonna make America great again. »«
Make America great again. »
Ouais. Puis, écoute, OK. C'est comme si t'étais un producteur de film, puis tu disais « Je peux mettre pour attirer les gens dans les salles avec mon film Yannick Marceau. » Ou George Clooney?
D'après moi, ça va être Clooney qui va passer. Ça dépend. S'ils veulent un gars...